près du front de l'Est, auprès des populations menacées. Alors dites-nous, Julien, à quoi ressemble cette ligne de front aujourd'hui ?
Alors là où j'étais, c'était Comar. J'ai regardé encore cette semaine où était la ligne de front. Elle a encore progressé. À l'époque, on était à 12 km. Maintenant, elle n'est plus qu'à 8 km. Donc vous voyez, ce qu'on craignait est en train de se produire. Là, ce sont des villages où, quand on est arrivé, il y avait que des chiens, quasiment. On a croisé une personne. Les habitants fuient de plus en plus cette ligne de front à la campagne. On est aussi allé à Kramatorsk, grande ville de l'Est, où là, effectivement, la vie continue, mais les bombardements sont incessants. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les rez-de-chaussée, beaucoup de fenêtres d'immeubles sont obstruées par des plaques de bois. Preuve que les bombardements ici sont incessants. On évite, évidemment, d'avoir des fenêtres. Enfin, c'est une vie sous bombardement. C'était très particulier, très fort et très stressant également.
Donald Trump a engagé, on l'a entendu, des négociations avec les Russes pour obtenir, dit-il, un cessez-le-feu rapide. Les Ukrainiens, eux, ne semblent même pas consulter. Alors, qu'en pensent les personnes que vous avez rencontrées ?
Alors, tous me disent, on va pas se faire imposer une paix qu'on n'aurait pas choisie. Mais ça, ce sont les déclarations. Après, qu'on pousse un peu, on se rend compte qu'ils savent qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains et que ça se décide ailleurs. Alors, même un militaire me parle, il est en permission, je lui demande ce qu'il en pense. Et il me parle sous le sceau de l'anonymat. Et en fait, là, il me dit que la jeunesse, c'est plus important que les territoires. Donc, c'est-à-dire que même quelqu'un qui se bat, c'est pas l'opinion de tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, ça transparaît dans les témoignages que j'ai eus, dans les rencontres qu'on a faites, que là, ça commence à faire beaucoup. 3 ans de guerre, ces territoires ont peu de chances militairement de les récupérer aujourd'hui. Beaucoup de jeunes meurent sur le front. Les conditions de combat sont très difficiles pour l'armée ukrainienne qui manque d'encadrement, d'équipement, de formation. Donc oui, de plus en plus de personnes sont prêtes à perdre ces territoires. Même les réfugiés que l'on entend dans le reportage, ils ont peu d'espoir de retrouver leur maison un jour et de retourner vivre chez eux.
Donc oui, on entend dans un moment où vous dites justement qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre fin aux hostilités, qui seraient en faveur de la fin des hostilités contre la cession de ces territoires. C'est une opinion qui grandit aujourd'hui ?
J'ai l'impression. En tout cas, les gens que nous avons rencontrés de Kiev à Dnipro jusqu'à du côté de Kramatorsk, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de combats et un front qui ne progresse pas en faveur de l'Ukraine. Oui, le pays résiste et c'est déjà énorme, c'est déjà une victoire pour eux. Mais là, beaucoup, beaucoup trop de victimes, beaucoup trop de souffrance pour ces gens depuis 3 ans.
L'Ukraine, c'est un grand pays, on s'en rend peut-être pas toujours compte, Julien, de l'Est à l'Ouest, la perception de la Russie et la perception de la guerre peut différer. Qu'est-ce que vous avez vu à ce niveau-là ?
J'ai l'impression, c'est mon ressenti évidemment, je pense pas refléter de ma propre voix tout ce que pensent les Ukrainiens, mais en tout cas il y a deux situations. À l'Est, on vit sous les bombardements. On y est confronté en permanence. On doit s'y habituer, mais c'est quand même mentalement très compliqué de dormir alors qu'il y a des bombardements dehors et on se dit peut-être que ce soir j'aurai pas de chance. À Kiev, c'est différent. Il y a les alertes aériennes, évidemment, ça crée un stress. Il y a des victimes toujours à Kiev malgré la protection anti-aérienne, mais la vie continue. Des gens travaillent, des gens vont dans des bars, on sort, on s'amuse et c'est très bien ainsi de mon point de vue. La vie doit continuer, mais effectivement, à l'Est, on est beaucoup plus résigné. On vit avec la guerre au quotidien. À Kiev, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus lointain et on a plus de personnes à Kiev qui vont nous dire il faut continuer, on doit y arriver, alors qu'à l'Est, on est déjà prêt à tourner cette page par nécessité.
Au début de la guerre, beaucoup, comme moi, avons découvert l'humour exceptionnel des Ukrainiens face à l'adversité, face à la guerre qui leur tombait dessus. Est-ce que vous avez l'impression que cet humour demeure aujourd'hui ?
On l'entend un moment avec le commandant de Nice, c'est le chef médical de cet hôpital de campagne dans un lieu tenu secret. Je lui pose des questions assez difficiles. Est-ce qu'il s'imaginait 3 ans plus tard continuer à combattre ? Il se marre. Donc oui, l'humour comme force. Mais oui, on rencontre des gens très forts. Je pense aux réfugiés qui avaient avant la guerre des situations personnelles difficiles, qui là vivent dans une précarité compliquée, qui sont un peu oubliés dans cette guerre. J'avais rencontré des jeunes aussi à Kiev et oui, ils sont forts, ils tiennent, ils continuent à vivre, ils ont toujours espoir que ça marche. Alors ils se sentent soutenus évidemment par les Occidentaux, mais oui, ils sont forts, ils ont une certaine force de caractère et ils sont loin d'avoir abandonné. C'est pour ça que ce grand reportage s'intitule « Des Ukrainiens résignés » parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de faire plier la Russie tout seul, mais ils baissent pas les bras, ils n'ont pas abandonné en tout cas.
Merci beaucoup Julien Chaban.
Les
La guerre en Ukraine peut aussi se transformer en opportunité. C'est en tout cas la vision de centaines de Colombiens qui partent sur ce front comme mercenaires. La plupart sont des anciens combattants dans leur pays et ils accourent derrière la promesse d'un salaire alléchant. Une fois sur place toutefois, c'est l'horreur qui les submerge et peu d'entre eux reviennent vivants. Ces mercenaires colombiens qui partent sur le front ukrainien, voici le grand reportage de Nadjet Benraba, Nadjet que nous retrouvons dans 20 minutes pour en parler.
Nous sommes le 24 septembre 2024 et dans le journal de France 24 en espagnol, il est question des mercenaires colombiens partis en Ukraine.
Con la ida de estos militares en retiro de Colombia a Ucrania.
Otilia cherche à retrouver son fils Alexander. Il fait partie des centaines de Colombiens qui se sont joints à l'armée ukrainienne.